Luc 4, 18, puis 10, 17 et 13, 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. On va au chapitre 10, verset 17. Il a envoyé les disciples, et les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Et la dernière lecture, et ce sera le fond de notre partage ce matin, on est au chapitre 13 du livre de l'Évangile de Luc. Luc, c'est le médecin qui s'est enquéri auprès de ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement de tout ce qui s'est passé, et il l'a noté d'une manière suivie, avec beaucoup de précision. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc vous voyez que des actes barbares, malheureusement, il y en a toujours eu. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite !» lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Et depuis des jours et des jours, ce texte à la pensée, cette femme courbée, c'est notre humanité. Elle est courbée sous un joug qu'elle a eu, pour quelque raison que ce soit, elle, c'est lié à une possession démoniaque, mais la parole ne nous cache pas que le monde entier sous la puissance des ténèbres s'est écrit de cette manière-là, et que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. La terre est même comme un homme ivre, elle chancelle. comme une cabane qui s'écroule, elle ne se relève pas. Parce qu'il y a sur nous tant de désobéissance accumulée depuis que le monde a choisi des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et aujourd'hui, l'horreur du péché apparaît dans toute sa dimension. C'est que celui qui commet le mal n'est pas forcément celui qui le subit. Ce serait trop raisonnable, ce serait logique. Or, dans le péché, c'est l'innocent qui trinque. Parce qu'on est dans un principe malin. Et le principe malin, c'est que ça ne fonctionne pas d'une manière cohérente. Ce n'est pas celui qui le mérite qui prend, même si au jour du jugement dernier, il va prendre ce qu'il mérite. Mais en attendant, ce n'est pas celui qui le mérite à l'instant T qui le prend. Ce sont des innocents qui trinquent. Et quand je dis que le monde est sous le joug du péché, il ne faut pas dire que tous ceux qui ont souffert, c'est à cause de leur péché. Parce qu'il faut être respectueux de la souffrance. Et celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand bien même il abandonnerait la crainte de l'Éternel. Mais c'est le principe général du péché qui prévaut. Et le monde est sous la puissance des ténèbres qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Cette femme, la réalité de sa vie depuis des années, c'est qu'elle est courbée, elle ne peut plus se redresser. Il y a des hommes et des femmes, et ils sont nombreux, et nous en faisions partie. Nous n'arrivions pas, sauf avec le miracle de Dieu, à nous relever, à sortir de la situation dans laquelle nous étions enfermés. Mais Jésus est là ce jour-là, et il lance un appel qui est fort, qui est clair à celui qui souffre. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est l'appel que le Seigneur lance à l'humanité entière. Nous l'avons entendu, et on n'est pas meilleur que les autres, sauf qu'on l'a entendu, et nous avons répondu. Mais l'appel s'adresse à l'humanité entière. Le monde est dans le même état que cette femme. Et ça fait mal. Nos semblables, nos amis, les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se sont peut-être éloignés de Dieu ou qui ne se limitent qu'à écouter et penser et croire que c'est vrai, mais qui ne sont pas allés au bout, eh bien, sont dans le même état que cette femme. Ils ne fonctionnent que sur leur propre pensée, leur propre force, leur propre compréhension. Et la parole, elle est claire, elle dit dans l'Épître aux Éphésiens, vous étiez morts, spirituellement morts. Dans vos offenses, quand vous viviez selon le train de ce monde, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. Et de temps en temps, on essaie de s'en sortir. Ce que l'on entend aujourd'hui, c'est il ne faut pas se laisser piéger dans cette situation-là. Il faut continuer de vivre, il faut continuer de se réjouir. Et jusqu'à la prochaine étape, malheureusement. Tous ceux qui parlent ainsi n'ont pas d'autre espérance qu'une espérance momentanée. Et nous sommes les dépositaires d'une parole beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et surtout qui a éclairé nos vies, qui a éclairé la réalité de nos vies. Le Seigneur est venu pour tout changer et nous savons ça. Aujourd'hui, et peut-être vous l'avez vu hier soir encore aux informations, il y a un pourcentage élevé de candidatures dans tous les services de la nation. J'estime que c'est positif, hein. C'est une réaction saine. Et il parlait aussi des forces spéciales en disant que là, il y a des critères de sélection qui sont physiques, qui sont mentaux, non pas des capacités mentales, mais d'une stabilité mentale, parce qu'il faut aller dans des endroits et dans des situations compliquées. Et le Seigneur, d'une certaine manière, il n'a pas choisi des hommes et des femmes qui auraient passé par une certaine sélection, parce qu'on ne serait peut-être pas beaucoup à avoir réussi, je ne pense pas que j'aurais réussi non plus. Il a choisi les choses faibles et folles du monde. Pour confondre les sages. Nous n'avons pas la même sélection au départ parce qu'il n'y a pas de sélection. Parce que Dieu agit sans favoritisme, aucun, sans distinction de personne. Mais ce qu'il nous a donné est tellement efficace que même entre les mains d'un enfant, c'est opérationnel, c'est efficace. Celui qui entend la parole de Dieu donnée par qui que ce soit un grand prophète, que ce soit un grand prédicateur, que ce soit l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, qui, d'une certaine manière, ne dit que des choses simples, basiques, et 3000 se convertissent. Qui que ce soit qui le dit, la bénédiction de Dieu va se manifester, parce que le Seigneur est venu nous donner l'arme par excellence. Et on va en parler en terminant. Une des armes par excellence, si ce n'est l'arme par excellence, c'est la prière. Parce que la prière a une grande efficacité. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'efficacité de certaines armes. Je parle des armes que l'on envoie dans une région pour arriver à régler la situation. Ça part de loin, ça tape avec une précision, c'est sûr qu'il y a des dégâts collatéraux. Mais combien ce serait insensé d'avoir à disposition de telles armes et de ne pas les utiliser pour arrêter le fou, pour arrêter celui qui est fanatique. Et nous, nous sommes dépositaires d'une arme d'une redoutable efficacité que nous n'utilisons pas comme il faut. Pourtant, ce n'est pas compliqué de l'apprendre. Aujourd'hui, on reparle de nouveau du service militaire. Nous, on nous avait appris à monter et démonter le FAMAS les yeux fermés. Alors, c'est sûr que au bout d'un moment, le Mickey, parce qu'il y a une tête qui s'appelle comme ça, faut pas se tromper, mais ça a été bien calculé pour que ça se monte même les yeux fermés. C'est pas compliqué, la prière. Il y a un minimum à savoir, et quand on le sait et qu'on l'utilise, alors le bras de Dieu se meut. La petite voix que je suis, la petite personne faible que je suis, peut faire bouger le bras de Dieu. Et ça, c'est important. Le Seigneur est venu pour tout changer. Il a réglé, lui, ce que nous ne pouvions pas faire. De ce côté-là, tout est réglé. Tout est accompli. Lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Lui qui a porté nos souffrances à la croix. Lui qui a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et là, maintenant, il rencontre cette femme. Il y avait là une femme qui ne pouvait se redresser. Et le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui ne peuvent pas se redresser. Ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Personne ne fait de commentaires à son égard. Alors gardons-nous de faire quelques commentaires que ce soit à l'égard de quiconque, du style « Ah ben, si vous êtes dans cette situation, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là ?» Certainement qu'elle a pas fait que lire le journal. Elle est peut-être allée plus loin jusqu'à ouvrir son cœur à la possession démoniaque. Peu importe ce qu'elle a fait, le résultat, il est là. Et le Seigneur, lui, ne vient pas chercher le pourquoi du comment. Il vient s'occuper du résultat. Et le résultat est désastreux, il va intervenir, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, il est venu détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que de temps en temps, ça va secouer. Il ne faut pas avoir peur d'être en première ligne. Mais quand bien même il serait comme un lion rugissant, il sera autour, limité à rôder, faire du bruit et rien d'autre. Parce que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet, lorsqu'il la vit. Là, je me dis, quelle grâce. Parmi tout cet auditoire, il y avait une femme qui avait besoin d'avoir sur elle le regard du Seigneur qui se porte. Et il a porté son regard sur elle. Il connaît toute son histoire, il ne fait aucun commentaire. Mais lorsqu'il la vit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. C'est le regard d'un père qui est ému de compassion, plein d'empathie à notre égard par rapport à ce que nous sommes devenus. C'est le regard d'un frère. Ce n'est pas le regard d'un Dieu qui est lointain, tout puissant, qui est le juge du jugement dernier. Aujourd'hui, il est un père. Aujourd'hui, il est un frère. Et il est au milieu de nous. Et il est avec nous. Et il ne porte pas un autre regard sur les gens et sur leur situation autre que celui-là. Ne nous trompons pas. Ne portons jamais un autre regard que celui du regard du Père. Et quand on regarde comme un Père ce que peuvent être devenus ses enfants, nos enfants, on va être malade. On ne va pas y échapper. On va pleurer, peut-être pas sur notre péché, mais sur les conséquences du péché. Pour notre péché, normalement, c'est réglé. J'espère que ce matin, tout le monde a réglé la question de son propre péché devant Dieu et a mis sa vie en règle avec Dieu si ce n'était pas encore fait. Il ne faut plus attendre. Vous avez vu qu'on n'a pas de temps, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est le regard d'un frère. Et quand un frère comme lui porte son regard sur ceux qu'il n'a pas honte d'appeler frère, alors c'est le regard comme peut-être on n'a jamais eu sur nos vies. Que de temps en temps, il serait bon de croiser le regard du Seigneur. Quand Pierre a croisé le regard de Jésus, ça a été un changement radical dans sa vie. Il était en train de chuter, il était même arrivé en bas. Mais par ce regard que le Seigneur lui a porté, une chose importante s'est faite au fond de son cœur. Dieu était en Christ pour faire une œuvre de sauvetage, pour faire une œuvre de réconciliation. Le Seigneur la voit et il lui adresse la parole. C'est une parole puissante. Elle a fait le monde. Et quand nous parlons à quelqu'un, est-ce que ça le fait trembler? Pas de peur. Trembler de bénédiction. Il reçoit quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Mes frères et sœurs, combien de fois nous avons fait trembler, mais pas du bon tremblement. Combien de fois on a redouté la parole qu'on allait nous adresser. Parfois on l'a méritée. Elle aurait eu toutes les raisons du monde d'entendre une parole qui vient de celui qui sait tout et qui pourrait lui faire des reproches, mais ce n'est pas du tout le moment, ce n'est pas du tout la situation, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. C'est une parole qui sauve, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité, et nous l'avons. Et nous sommes les porte-paroles de Dieu. Quand nous parlons, nous ne devrions faire que du bien. Dès que vous allez parler à partir de ce message, être précis. Dès que vous allez parler à partir de ce message et ne pas faire du bien, mettez-vous une baffe. Ça vous évitera l'autre de vous la mettre. Parce que s'il vous la met, comment vous allez répondre? Vous êtes coincé là maintenant. S'il vous met une baffe en vous disant « Mais comment tu me parles? Je te parle comme tu le mérites. » Mais dis, le Seigneur, il n'a pas parlé comme ça à ceux qui le méritaient. Aïe, et je prends une deuxième baffe. Voilà. Je le dis en plaisantant, mais pas tant que ça. Ce que nous disons, nous sommes les seuls à apporter des choses qui font du bien avec des mots. Changeons de dictionnaire, changeons de vocabulaire. Et si nous n'y arrivons pas, c'est peut-être que l'alimentation intérieure n'est pas bien branchée. Parce qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour parler comme il a parlé, dans quelque situation que ce soit. Si nous ne sommes pas animés des mêmes sentiments, à la sortie, ce n'est pas les mêmes paroles, forcément. Et si on essaie de le faire avec nos propres forces, on ne va pas tenir. On ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à prier pour nos ennemis. Ou alors, on va le faire, mais il y aura un décalage abyssal entre les mots et le ressenti. Et si notre cœur n'y est pas, ce n'est pas la peine de prier, parce que dans la mesure où prier consiste à s'adresser à Dieu qui sait tout, on ne va pas jouer les hypocrites avec lui ou les gens qui ne sont pas vrais. C'est la bonne nouvelle adressée à toute la création. Il lui adresse la parole. Et cette femme a été transformée par cette parole. Et il va plus loin, il lui impose les mains. La compassion de Dieu, elle est concrète. C'est une action qui se termine pour lui. Il lui adresse la parole, il lui impose les mains, il touche le mal. Et vous comprenez que le démon qui était à l'intérieur, ça, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter que cette femme qu'il tenait depuis 18 ans soit touchée par celui qui est la vie. Celui qui est la vérité, celui qui est le prince, celui qui est le roi. Démon est parti. Quand nous touchons quelqu'un, que ce soit pour lui apporter une bénédiction, même quand vous saluez quelqu'un, ne serait-ce que par un serrement de main, il n'y a pas de technique, hein. Ça dépend de l'intérieur. Mais si votre intérieur est débordant, votre serrement de main va faire passer un message. Quand nous allons prier, parce que ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas sacramental, la bénédiction de Dieu passe, c'est l'obéissance. Pour elle, c'est l'obéissance et la foi. Cette femme, quelle situation paradoxale, une femme possédée dans la synagogue. Mais en même temps, le Seigneur est en train de faire le constat que même dans sa maison, il y a des gens abîmés. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Il a fallu enlever les vendeurs du temple. Et maintenant, il y a un homme à la main sèche. Et maintenant, il y a une femme possédée. La maison de Dieu, elle est ouverte à l'égard de tous ceux qui en ont besoin, quel que soit leur état. Et celui qui est là, c'est le Seigneur, il accueille ceux qui rentrent dans sa maison pour les bénir et les délivrer. Mes frères et sœurs, que celui qui rentre soit béni. Autrement dit, qu'il ne sorte pas comme il est rentré. S'il sort comme il est rentré, je vais me mettre des baffes, parce que je me sentirai responsable. Pour ma part, et vous voyez où je veux en venir, nous sommes une équipe. On n'envoie pas une personne pour régler un problème. Aussi compétente soit-elle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut une équipe. Il y en a qui vont au contact, il y en a qui sont en base arrière, vous avez vu, il y en a qui éclairent, il y en a qui sont avec les lasers, etc. Et le résultat de tout ça, la somme de tout ça, c'est que le problème va pouvoir être réglé. Alors ce n'est qu'une correspondance, ce n'est qu'une ressemblance. Mais nous, c'est pareil. Des fois, des personnes âgées disent « Moi, je ne peux pas faire grand-chose. » Je ne peux pas faire grand-chose. Mais prenez l'arme qui est efficace par excellence et utilisez-la. De chez vous. De chez vous, vous pouvez prier, l'autre bout du monde, il est béni. Vous imaginez, il faudrait un laser incurvé pour faire le tour de la planète et aller à l'endroit précis. Et nous, il y a des siècles, des millénaires que le Seigneur nous a donné ce qu'il faut. Il n'y avait rien d'autre à rajouter, c'est parfait et efficace dès le départ. Et nous prions. Et la prière, elle va là où il faut. Elle fait l'œuvre de Dieu. Et le résultat, c'est la bénédiction. Elle fut guérie. Et elle glorifie à Dieu. Et ces paroles du Seigneur retentissent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne vous dirai même pas que je veux les voir, la question n'est même pas là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut la formuler. Je veux voir celui qui est courbé, qui ne peut pas se redresser, libéré, qui se redresse. Non pas pour dire un et deux et trois, peu importe, puisque de toute façon on ne pourrait même pas les écrire, et si on les écrivait, le monde à l'époque, alors imaginez depuis, le monde ne pouvait pas contenir. Donc on n'est pas là pour voir et se satisfaire, on n'est pas là pour compter parce qu'au bout d'un moment on n'arrivera plus à tenir les comptes des grâces et des bénédictions de Dieu, mais on est là pour voir celui qui ne peut pas se redresser, être libéré. Et ça, c'est notre responsabilité. Il était là ce jour-là, elle était là ce jour-là, quelque chose s'est passé. Nous sommes là, je ne sais pas qui est venu ce matin et dans quelle situation vous êtes, mais que par la grâce de Dieu, ce que nous allons vivre ensemble et continuer de vivre ensemble, soit un élément de délivrance dans votre vie, un élément de grâce et de bénédiction dans votre vie, que la main du Seigneur soit posée sur vous, que la prière de celui qui est à côté de vous, qui est au courant de rien de ce que vous traversez, soit comme une bénédiction qu'il vous envoie en pleine figure, parce que cette parole est empreinte de l'Esprit de Dieu. C'est une parole qui va au-delà des mots. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Et de là-haut, le Seigneur est au PC, poste de commandement. PC opérationnel. Et de là-haut, puisque tout est accompli, il regarde tout ce qui se passe. Et il voit qu'il y a des hommes et des femmes qui se réunissent. Il voit qu'au milieu, il y a quelqu'un qui est abattu. Il va donner une parole de Dieu, un don spirituel. Il va donner de pouvoir saluer la personne et lui apporter la bénédiction qui vient d'en haut. Et je terminerai, cette sorte de démon, dans un autre cas de figure, ne sort que par la prière et par le jeûne. Et je termine avec ça, mes frères et sœurs. Je crois que le constat que j'ai fait, malheureusement, est juste parce que je me l'applique, rassurez-vous. Je ne vous parle pas à vous, je me parle. Nous sommes en défaut, en déficit de prière. Nous sommes en défaut et de défense immunitaire spirituelle. On s'est fragilisé parce qu'on est devenu habitué, parce qu'on est devenu un peu indolent. Et quand le mal nous tombe dessus, la fragilité fait qu'il porte plus que ce qu'il ne devrait. Normalement, il devrait ricocher. Mais là, il porte. Alors, il faut qu'on se ressaisisse. Et par la grâce de Dieu, on arrive à se ressaisir. Le malade est guéri. Le chrétien abattu se relève. Mais s'il n'avait pas été fragilisé, il aurait été efficace dès le départ. Et c'est ce que les uns et les autres, nous sommes appelés à être, beaucoup plus efficaces dès le départ. Nous sommes les services opérationnels de Dieu dans ce monde, qui apporte la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu. Je vais demander à notre sœur de projeter ce petit tableau. Ce petit tableau, c'est le résultat de notes que j'ai prises il y a des années, et je l'ai adapté à 80 ans d'espérance de vie. Est-ce que je gêne? Oui, je gêne. Je vais à la place de Marc. Voilà, ce sont des statistiques faites il y a des années, c'est rentré dans une machine, sur la moyenne de vie dans des pays occidentaux de quelqu'un qui avait 67 ans. Alors, je l'ai extrapolé à 80 ans, puisqu'aujourd'hui, l'espérance de vie pour les hommes est de 80, 85 pour les femmes, et on ne fait pas de commentaires. On passe 5% à apprendre, autrement dit 4 années. 5% de notre vie malade ou en convalescence, à peu près 4 années. 6% à discuter. Alors, il y en a qui discutent plus, autre moins, hein, c'est une moyenne. Presque 5 années à discuter, après vous ne parlez plus du tout. 7 années à se déplacer ou en voyage. 7%, pardon, donc un peu plus de 5 ans et demi. 9% à manger, donc un peu plus de 7 ans. 12% à se distraire, près de 10 ans. 20% à travailler, 16 ans non-stop, après vous avez droit à la retraite. et 36% à dormir. Nous sommes construits de cette manière-là. Et je me suis dit, et dans tout ça, Seigneur, à quel moment sommes-nous spirituellement efficaces? Et comme c'est impossible à pondérer, puisqu'on ne se convertit pas tous au même âge, et à partir du moment où nous nous convertissons, on n'avance pas tous à la même vitesse, alors j'ai fait une cote très très mal taillée, parce qu'on va à l'église quelques heures dans la semaine, certains plus, d'autres moins. Donc j'ai mis en moyenne une demi-heure par jour pendant 80 ans. Ça veut dire que c'est une base n'est pas exacte, puisque les nourrissons, on ne peut pas les compter comme efficaces. Mais ça veut dire que le résultat, c'est un résultat maxima. Donc la réalité est en dessous. Et une demi-heure par jour pendant 80 ans, ça fait un an et demi, un petit peu plus cumulé, 0,02% de notre vie. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je nous dis ça? C'est que quel que soit le résultat, que ce soit une demi-heure maximum ou moins, quand c'est en place, il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit efficace. Il faut que notre vie spirituelle soit bien posée. Que nos prières portent. Parce que si on devait pondérer en moins ce résultat qui n'est pas si grand que ça, mais ça veut dire qu'entre les mains de Dieu, on est efficace de temps en temps. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un que le Seigneur appelle à le servir ne peut pas dire « Ah, mais je suis pas prêt ». Vous avez vu que quand on appelle les secours à ce niveau-là, ils sont prêts. Il ne peut pas en être autrement. Et nous, nous ne sommes pas prêts parce qu'on n'est pas en forme, parce qu'on s'est laissé aller, parce qu'on est dans nous-mêmes des difficultés. Mais mes frères et sœurs, nous avons la connaissance que personne n'a à ce niveau-là. Nous avons les moyens que Dieu nous donne comme personne ne les a entre ses mains à disposition. Il nous suffit de nous ressaisir un petit peu. Voilà. Et je ne sais même pas si on est aujourd'hui à une demi-heure par jour, cumulée. On enlève les réunions de la semaine et du dimanche, on ramène à une moyenne quotidienne. Entre lire la Bible et prier, on ne va pas à l'église de la semaine et on le ramène à une moyenne quotidienne, une demi-heure par jour. Je suis sûr qu'on n'y est pas. Ça veut dire que le résultat est en dessous. Ça veut dire que les moments où nous sommes efficaces entre les mains de Dieu, ils sont très courts. Alors, ce n'est pas pour faire des reproches à personne, parce que sinon je me ferai des reproches à moi-même, mais c'est pour dire et prendre conscience, Seigneur, quand tu nous appelles à te servir, à faire quelque chose, dès le départ, on est efficace. Dès le départ, on s'engage. Quand on vient dans ta maison à l'heure de la prière, au culte ou autre, on n'est pas en bonne forme à la fin, au moment de sortir, parce que tout ce qui s'est passé avant nous a fait du bien. D'une certaine manière, avec les musiciens, on s'est entraînés vendredi soir et ce matin pour être, entre guillemets, efficace au niveau des chants. Mais ce n'est pas ça qui doit faire que quelqu'un ce matin dise « Oh, les chants m'ont fait du bien » ou « La parole m'a fait du bien ». C'est nous qui sommes appelés à faire du bien aux autres et pas à venir se faire du bien. Donc, si cette parole nous a interpellés, en tout cas moi elle m'a interpellé depuis des jours et des jours, je n'arrive pas à en sortir de ça. Je me dis, mais Seigneur, quand tu m'appelles à faire quelque chose, heureusement qu'il y en a d'autres qui sont disponibles. Il n'y a pas que moi, parce que s'il n'y avait que moi, ça serait un peu fragile. Voilà. Alors on va continuer ce moment de culte et peut-être s'approcher du Seigneur pour dire, bon maintenant on recale tout bien comme il faut.